bienvenue sur le podcast Bien dans ta boîte. Je suis Laura Besson, coach, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour Raphaël Antoven, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast de Bien dans ta boîte. On vous reçoit aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre livre que je vais montrer face caméra, L'esprit artificiel. Donc aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de philosophie forcément puisqu'on vous reçoit. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez éventuellement commencer par vous présenter pour celles et ceux qui éventuellement ne vous connaissent pas encore ?
Oh, me présenter, je peux dire peu de choses. Je suis prof de philo. Suis prof de philo depuis longtemps maintenant. En tout cas, j'ai longtemps été prof de philo. J'ai passé le bac pendant 30 ans. Et d'une certaine manière, ce livre est mon testament de professeur. Voilà ce que je pourrais vous dire de moi.
Eh bien, justement, vous passez le bac de philo depuis 30 ans. Et en juin 2023, ça a donc été l'occasion d'accepter un match, entre guillemets, contre l'intelligence artificielle ChatGPT. Vous êtes tous les deux prêtés à l'exercice de la dissertation de philo sur le sujet « Le bonheur est-il affaire de raison ?». Au début de votre ouvrage, vous dites « Pourquoi pas ne pas le faire ?». Mais la première question qui m'intéresse, c'est « Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette démarche ? Pourquoi vous avez accepté de vous prêter à cet exercice-là »
Oh, parce que j'avais passé le bac sous tous ses supports. Je l'avais passé en ligne, dans la presse, à la télé, à la radio, sur une estrade, dans des copies. Enfin bref, j'ai passé ma vie à passer le bac. Mais j'avais jamais affronté une machine jusqu'ici. Et que, par ailleurs, la dernière réforme du bac avait pour effet de transformer l'épreuve du bac, qui était si importante du temps où nous l'avons passée, en une épreuve totalement anodine et sans importance, puisque désormais, avec la réforme du bac, si vous êtes bon élève, par la grâce du contrôle continu, vous arrivez le jour de l'épreuve de philo avec le bac dans la poche. Donc, tout bon élève peut se désintéresser de la philosophie. Donc, catastrophique réforme du bac. Et donc, c'est dans ce contexte un peu désolant que j'ai accepté ça sans beaucoup d'espoir pour la machine. Et voilà, et j'ai pas été déçu parce que ce que j'ai vu était désolant. C'est-à-dire que la machine a fait exactement ce qu'on pouvait attendre de sa part. Le sujet, c'était le bonheur est-il affaire de raison ? La machine a prélevé toutes les théories du bonheur qu'elle connaissait, c'est-à-dire toutes les théories du bonheur, qu'elle a rangées indifféremment dans plusieurs tiroirs. Elle a répondu oui, mais peut-être. Elle a conclu en faisant valoir que le bonheur pouvait être affaire de raison, mais pas seulement. Autrement dit, son travail n'était ni fait ni à faire. Le fait qu'elle l'ait accompli en 45 secondes ne lui donnait aucune valeur particulière. Il manquait à ce travail ce qui fait qu'une dissertation de philosophie est une dissertation de philosophie, c'est-à-dire une problématique. Et cette introuvable problématique, c'est, vous savez, la problématique, c'est l'exercice qui consiste à montrer ce qui, au terme de l'analyse des sujets, coince dans le sujet qu'on vous donne, dans l'énoncé qu'on vous propose. En l'occurrence, le bonheur est un sentiment ne peut pas être l'affaire de la raison, il y a donc là une tension, une problématique, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir faire le plan. La machine était incapable de faire ça, incapable, parce que ce que nous mobilisons, c'est ça que je veux dire, la partie de nous-mêmes, que les parties de nous-mêmes que nous mobilisons pour faire une problématique, pour constituer une problématique, pour faire ce petit pas de côté, pour trouver cet atome de pensée qu'on appelle une problématique, les parties de nous-mêmes que nous mobilisons ne relèvent pas de la complexité, relèvent de l'expérience, relèvent de la peur, relève de nos désarrois, de nos vertiges, relève du travail, relève des révisions, relève du dialogue avec un professeur, relève de choses que la machine ne peut pas singer, dont la machine ne peut pas obtenir le résultat magiquement parce qu'on lui en a donné l'ordre. Et donc, à partir de là, évidemment, il n'y avait pas de match. La machine a fait une dissertation nulle.
Alors, nulle qu'il n'a pas lu un 11.
Oui, mais c'était mal, elle a été surnotée. Non, mais non, si vous voulez, faut dire, le 11 est une note vraiment pourrie. C'est une note qui ne promet qu'elle-même, voyez. On met 11 à celui à qui on... C'est l'accident dont on réchappe, le 11. C'est vraiment une note qui ne promet rien de plus. Mais en l'occurrence, non seulement elle a eu 11, mais en plus elle a été surnotée parce que quand il n'y a pas de problématique, vous ne méritez pas la moyenne. Alors là, elle a eu 11 parce qu'il y avait tant de théories, tant de doctrines qui étaient énoncées, et d'une certaine manière assez proprement, que bon, après tout, pourquoi ne pas mettre 11 à une copie comme celle-là? C'est-à-dire, on mettrait 11 à un élève qui, n'ayant rien compris à l'exercice, aurait néanmoins fait l'effort d'apprendre quantité de choses. Mais c'est une notation généreuse, hein. Franchement, j'aurais mis moins que ça, moi.
Alors, j'ai passé les derniers jours à écouter plusieurs interviews de vous, donc j'ai entendu que vous reconnaissez aussi avoir, vous, été surnoté. Vous estimez que ça ne méritait pas le 20 que vous avez reçu.
Non, parce qu'aucune copie ne mérite 20 en philo, de façon générale, et c'est heureux. Aucune copie ne mérite 20 par définition. Vivre, c'est faire imparfait. On ne peut pas faire une copie parfaite en philosophie, ça n'existe pas. Et en particulier quand on a 1 heure et quart, ce qui était mon cas, pour la rédiger. J'avais pas 4 heures comme le jour du bac, donc 4 heures, ça change un peu la donne pour un humain, si vous voulez. Autant pour une machine. Il n'y a aucune différence entre ce qu'elle est capable d'accomplir en 40 secondes et en 1 heure et demie. Autant pour un humain, évidemment, ça change tout. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je ne méritais pas 20. Ma copie ne méritait pas 20. En revanche, c'était une copie de philo. C'était une vraie dissertation. C'était une vraie dissertation dans laquelle j'ai examiné le sujet, j'ai creusé le sujet véritablement. Et j'ai déployé une argumentation qui valait ce qu'elle valait. Mais donnait au correcteur le sentiment d'une nécessité. Ma deuxième partie ne pouvait pas venir avant la première. Alors qu'avec notre machine, ChatGPT, la deuxième partie aurait pu venir avant la première, la troisième aurait pu venir avant la deuxième, c'était dans un ordre tout à fait indifférent, serti par un humour poussif. Ça n'avait aucun intérêt.
Alors justement, vous parlez de ce pas de côté que la machine ne fait pas. C'est quelque chose qui m'a interpellée en vous lisant, qui ne vient pas questionner la question, du coup, et effectivement qui ne déroule pas un plan nécessaire à son argumentaire. Vous dites par exemple dans votre livre, dans les interviews que j'ai écoutées, que l'élève de terminale qui disserte, lui, finalement, il a eu une année aussi pour échanger avec son professeur, ses lectures, etc. Ma question, c'est est-ce qu'une énième différence entre l'intelligence artificielle et l'humain, ça serait donc la capacité à penser contre soi-même?
Oui, mais c'est surtout la capacité à penser tout court, avant de penser contre soi-même, ce qui est magnifique, hein, mais penser tout court, ce qui nous distingue de la machine incurablement, c'est la capacité à penser. Parce que ce que nous mobilisons pour penser n'est pas de l'ordre d'une complexification accrue des équations que la machine se donne. Ça n'est pas ça, la pensée. En fait, toute cette histoire, si vous voulez, dans mon livre, je dis un truc qui est évident, mais bizarrement, c'est contre-intuitif. Et pourquoi une évidence peut-elle être contre-intuitive? Dans cette histoire, depuis le début, on fait comme si la pensée était une affaire de complexité uniquement, comme si c'était notre complexité qui nous séparait de la machine. Ça n'est pas notre complexité qui nous sépare de la machine. C'est notre simplicité. C'est la vie. C'est l'intransmissible expérience que nous faisons du vivant. Vous savez, le ChatGPT, c'est vraiment, j'en parle pas dans le livre parce que j'y pensais pas en l'écrivant, mais si j'avais eu l'occasion de rajouter un chapitre, je l'aurais fait. C'est le génie d'Aladin. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le génie d'Aladin peut tout accomplir, vraiment tout accomplir, tout faire, sauf les deux limites essentielles au génie d'Aladin, c'est faire en sorte que quelqu'un tombe amoureux, d'une part, et deuxièmement, ressusciter les morts. Autant dire que le génie d'Aladin ne sert à rien. Ce qu'il est en mesure d'accomplir, c'est ce que nous-mêmes, avec un peu d'effort, pouvons obtenir. Ah, de la richesse! Oui, bien sûr, mais si vous avez fortune, bonne fortune dans votre vie, vous aurez de la richesse. Ce que je veux dire, c'est que les prouesses du génie d'Aladin se situent dans l'ordre de ce que les humains sont en mesure d'obtenir. Il y a un seuil est exactement le même que pour la machine, que pour ChatGPT. On ne peut pas ressusciter les morts. L'intelligence artificielle, l'idée par exemple que nous allons pouvoir téléporter l'ensemble de nos datas et nous survivre à nous-mêmes est une illusion qui ne fonctionne pas et on ne peut pas obtenir par un matching correspondant de data, on ne peut pas créer un sentiment amoureux. Donc ce sont les deux limites. Ce sont deux limites, mais deux limites essentielles. Deux limites essentielles qu'il faut pointer. Il y a une illusion dans cette histoire. C'est l'illusion que tout ce que nous vivons peut être mathématisé, peut être mis en diagramme, après coup. La discussion qu'on est en train d'avoir, par exemple, l'édifice singulier de la discussion que nous avons, vous et moi, peut être mis en diagramme et décomposé, analysé, disséqué, quantifié, pesé, pondéré, etc., etc. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit de ce que nous nous sommes dit. Et nous ne pouvons pas, alors on pourrait reproduire cette discussion, mais on ne peut pas la créer. On ne peut pas la créer de toute pièce. Il y a dans la vie toujours un coup d'avance.
Oui, alors ça m'évoque, j'avais prévu de vous la poser plus tard, mais ça s'inscrit bien maintenant. Votre ouvrage, il s'inscrit dans la tradition du spiritualisme français, c'est comme ça que vous en parlez. Ça me
Oui.
paraît être un socle important, finalement, dans votre réflexion. La machine ne sera jamais capable d'humanité parce qu'il y a là un mystère à l'humanité, un je ne sais quoi, pour paraphraser Jean Kelevitch. C'est donc, j'imagine, pour cette raison que votre livre porte le titre de L'esprit artificiel et pas d'intelligence artificielle?
Oui. C'est aussi parce que ce titre est une fausse piste, d'une certaine manière, dans la mesure où, j'avais en tête, vous savez, un livre de Henri Atlan, le grand scientifique Henri Atlan, qui s'appelle L'utérus artificiel, dans lequel Atlan prédisait l'arrivée de l'utérus artificiel. Il y voyait d'ailleurs une révolution féministe comparable à l'invention de la machine à laver. Et donc, il prédisait l'arrivée de l'utérus artificiel. Moi, je prédis l'inarrivée de l'esprit artificiel. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, pour lui, utérus artificiel était une prédiction. Pour moi, esprit artificiel est un oxymore. Ça ne fonctionne pas. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. On ne peut pas créer un artefact spirituel. On ne peut pas. Et alors, ce qui est vrai, c'est que la tradition à laquelle je me réfère, c'est celle du spiritualisme français. C'est-à-dire essentiellement Ravesson, Bergson, Jean Kelevitch, Clément Rosset, mais plus largement que cette tradition, en fait, je me réfère à une tradition que je date, que je fais remonter au IIIe siècle après Jésus-Christ, à un philosophe alexandrin du IIIe siècle qui s'appelle Plotin. Et Plotin, pour une raison très simple, c'est que Plotin est un commentateur de Platon. Et il explique les textes de Platon. Et puis à un moment, sur la question de la beauté, Plotin trouve que Platon a tort. Pourquoi? Parce que Platon pense que la beauté peut faire l'objet de la science. Platon pense que la beauté peut faire l'objet d'une connaissance, qu'elle est en elle-même le signe d'un savoir, le signe d'une connaissance, l'indice d'une connaissance, et que par conséquent, il faut dépasser la beauté pour accéder au savoir dont elle est le signe, dont elle est l'indice. Autrement dit, la beauté n'est pas une fin en soi, elle n'est que le moyen d'une connaissance. Ça, c'est Platon. Mais pour Plotin, la connaissance ne peut pas faire l'objet de la science parce que si la beauté ne peut pas faire l'objet de la science, parce que si la beauté faisait l'objet de la science, on ne pourrait pas parler de la beauté d'un visage, qui pourtant n'est pas symétrique. On ne pourrait pas parler de la beauté d'un éclair ou d'un coucher de soleil ou d'un morceau d'or. Ce sont les exemples qu'il prend. Et en fait, l'idée que la beauté ne peut pas faire l'objet de la science, a donné le jour à toute une tradition de pensée qui culmine au XVIIIe siècle avec la critique de la faculté de juger, qui consiste à penser que le jugement esthétique échappe au concept. Et que par conséquent, il y a dans nos évaluations esthétiques, le charme, le beau, le goût, quelque chose d'irréductiblement hermétique à toute science. C'est la raison pour laquelle un poète est incapable d'expliquer pourquoi il a eu ses vers en tête, pourquoi ces vers-là lui sont venus, alors qu'un Newton pourrait expliquer comment ces équations lui sont venues, comment il a trouvé ce qu'il a trouvé. Donc il y a une différence, si vous voulez, c'est que l'art, la poésie, est traversée par le temps et par conséquent participe de l'irréversible, alors que la science est traversée par l'éternité et donc se parcourt de droite à gauche et de gauche à droite de façon linéaire. Donc le temps ne passe pas de la même façon. Et cette tradition-là, qui marque la singularité de la beauté, culmine ensuite avec Bergson, avec Jean Kélévitch, avec Clément Rosset, dans l'idée que, comment dire, le monde n'a aucun mystère, tout est explicable. Mais une fois qu'on a expliqué les choses, on n'en a rien dit. Et c'est à cette tradition-là que je me réfère pour dire qu'il y a dans ce qui fait l'essentiel de la vie quelque chose qui échappe incurablement à l'intelligence artificielle.
Et du coup, c'est parce que, à l'inverse de l'utérus artificiel, vous vous dites il n'y aura pas d'esprit artificiel, que vous devancez évidemment l'argument qui va nous être opposé, j'imagine, dans les commentaires de ce podcast. C'est oui, mais monsieur Antoven, l'intelligence artificielle, elle va continuer d'évoluer, que ChatGPT 5 ou 6, lui, sera capable de faire une problématique de philo. Vous n'êtes
Et
pas d'accord
oui,
avec ça?
non, parce que j'entends l'objection, bien sûr, sauf que la machine ne prend pas la direction de la réflexion. Parce que ce qui fait que nous réfléchissons, encore une fois, n'est pas une affaire de complexification accrue. La puissance de la machine n'est pas un gage de réflexion. Prenons l'exemple de la mémoire. Qu'est-ce que c'est que notre mémoire? Votre mémoire, ma mémoire. C'est une capacité avant d'être un stock. La totalité de vos souvenirs n'existe pas en vous à l'état de stock. En revanche, vous mobilisez les milliers de souvenirs adéquats pour avoir une discussion, par exemple, et employer les mots dont vous avez besoin au bon moment. Vous mobilisez votre mémoire, la totalité de votre mémoire, dans la fine pointe d'une décision, d'une phrase, d'une réponse, etc., etc. Notre mémoire est une capacité malléable. Le meilleur exemple qu'on puisse en donner, c'est un comédien qui aurait l'impression d'oublier son texte avant d'entrer en scène et dont le texte se présente à lui à mesure qu'il parle. La mémoire humaine est une conservation sans conservatoire. Autrement dit, notre mémoire n'est pas du tout, très peu ou très marginalement affaire de redistribution, de synthèse ou d'analyse. C'est tout à fait autre chose qui se joue dans la mémoire humaine. Ce que joue là ne s'obtient pas par la compilation indéfinie des datas. Ce n'est pas en enflant qu'on obtient cela. Ce n'est pas en augmentant nos capacités de stock qu'on aboutit à la mémoire dont nous sommes nantis, la mémoire humaine. Il y a là une différence de nature. La machine est aussi loin de la mémoire humaine que nous sommes loin de l'horizon en marchant droit devant nous. On n'y arrivera jamais. Ce qui est intéressant, c'est que cet échec définitif de notre capacité de créer est vécu par nous comme quelque chose d'imminent. C'est-à-dire, nous avons le sentiment d'être sur le point de créer un être conscient de toute pièce, alors que c'est une pure mystification et qu'une telle réussite est à l'autre bout de l'univers. Et pourtant, on le vit comme un mot sur le bout de la langue. Et ça me fascine. Ça me fascine. C'est-à-dire qu'on ait le sentiment d'être si près de quelque chose dont en réalité nous sommes si loin.
Oui, ça rejoint effectivement la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire que toutes les avancées là de l'intelligence artificielle nous ramènent, vous l'expliquez dans votre livre, à cette vieille angoisse que nos créations et que nos machines finissent par nous échapper. Est-ce que vous pourriez après nous expliquer effectivement pourquoi c'est faux? Mais surtout, je me suis questionnée en vous lisant et en vous écoutant, est-ce qu'il n'y a pas un petit enjeu de liberté philosophique là-dessous? C'est-à-dire, est-ce que là-dessous il y aurait la question de la liberté? Est-ce qu'on aurait peur d'être esclaves, de perdre notre liberté face à ces machines, liberté qui nous aura même permis de les créer. Est-ce qu'il y a une espèce d'angoisse existentielle, existentialiste, peut-être que la machine finisse par s'auto-déterminer?
Oui, je ne sais pas si c'est une angoisse existentielle. En fait, nous avons toujours, toujours fait le rêve que nos machines allaient nous échapper. Et ceci doit être, c'est très important de le remarquer. Prenons plusieurs mythes. Pygmalion. Pygmalion, par exemple, tel que Ovide le raconte, c'est l'histoire d'un sculpteur qui tombe amoureux de la statue qu'il produit et qui rêve que cette statue l'aime en retour. Terminator, qu'est-ce que c'est? Terminator, c'est un système qui s'empare de sa propre liberté et qui, pour assurer sa propre sécurité, extermine les humains, fait la guerre aux humains. iRobot, c'est la même histoire. Frankenstein, évidemment, c'est la même histoire. Tiens, en cousant des morceaux de cadavres et dont la liberté ensuite est de nous détruire de la même façon dans Blade Runner, les réplicants. C'est l'histoire d'individus qui, parce qu'on ne leur donne que 4 ans de vie, sentent tout le caractère précieux de l'existence et donc s'emparent de leur liberté et deviennent homicides. Nous n'avons jamais cessé de... Pinocchio! C'est l'histoire d'un pantin qui se prend pour un petit garçon. Et ainsi de suite. Nous n'avons jamais... Matrix, Star Wars, etc., etc. Enfin, la liste est infinie. On n'a jamais cessé de faire le rêve que nos créations deviennent des créatures. Et on fait ce rêve de nouveau avec l'IA. C'est le même cauchemar. C'est un cauchemar vieux comme l'humanité. La question n'est pas de savoir quand nous allons y arriver. La question est de savoir pourquoi une telle dystopie se porte aussi bien. Pourquoi elle a tant d'avenir? Pourquoi ça marche, ça? Parce que précisément ça ne marche pas. Parce que nous n'en sommes pas capables. Et parce que nous faisons depuis toujours le rêve que nous allons nous-mêmes donner le jour avec des outils à des créatures autonomes. On se prend pour Dieu. Et en fait, c'est ça qui est important. C'est qu'il y a dans cette crainte beaucoup plus d'orgueil que de crainte. Il y a le sentiment orgueilleux entre tous qu'on est capable de se prendre pour Dieu. Le golem, par exemple, c'est quoi l'histoire du golem? Ben, l'histoire du golem, c'est l'histoire du Maharal de Prague qui reproduit le geste divin par la confection d'un automate à base d'argile, sur fond d'argile. C'est l'histoire de l'imitation de Dieu par la reproduction de son geste. C'est ça que nous visons à chaque fois. C'est ça que nous voulons être. Nous faisons le rêve démiurgique d'être des dieux. Donc, nous en sommes très loin, bien sûr, parce que n'est pas Dieu qui veut, mais je crois essentiel de rappeler cette limite.
Alors effectivement, du coup, premier niveau de lecture de votre ouvrage, on pourrait se dire, c'est rassurant, ouf, l'intelligence
Oui,
artificielle ne deviendra pas
j'ai
humaine.
pas fait exprès de faire un livre rassurant, mais il paraît que c'est le cas.
Bah, ça vous ressemble pas, en plus, habituellement, vous avez
Non,
plutôt
non, non.
tendance à nous rappeler les enjeux, mais vous mettez quand même en garde, ceci dit, que l'humanité, elle, peut se machiniser. Là où peut-être l'intelligence artificielle ne deviendra pas humaine, l'humanité, elle, peut se machiniser. Vous dites même que c'est un enjeu de santé publique.
Oui, c'est-à-dire que, alors, ce qu'il peut y avoir éventuellement de rassurant, je mets le mot entre guillemets dans mon livre, c'est que je pointe, enfin, j'essaye de dire, mais c'est difficile à dire. Donc, j'espère y être parvenu. Mais j'essaye de dire, de toutes les manières possibles, que l'humanité est d'une étoffe qu'aucune machine ne synthétise. Et que, par conséquent, nous sommes très loin, aussi loin, tout aussi loin qu'au début de la vie, et que début de l'humanité, qu'à l'origine des temps, nous sommes très très loin, infiniment loin, de produire une machine consciente. En revanche, et donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une limite de l'humain, mais c'est une limite de l'humain qu'il est rassurant de formuler. Donc bon, tant mieux. En revanche, ce qui est vrai, c'est que l'équation n'est pas réversible. Si aucune machine ne peut devenir humaine, l'inverse est tout à fait possible. Le meurtrier abjure toute conscience au moment d'agir, par exemple, ou le meurtrier qui abjure toute conscience au moment d'agir se machinise au moment où il le fait. L'ouvrier à la chaîne qui conserve dans son corps les spasmes de l'effort qui était le sien se machinise d'une certaine manière. Le consommateur frénétique d'iPad qui ne raisonne qu'en fonction des signaux qu'on lui adresse se machinise, se robotise. C'est-à-dire que une chose est de faire le rêve que nos machines deviennent vivantes, tout autre est de faire le constat que nous sommes en train de nous soumettre nous-mêmes à nos machines. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'évidemment, comme on ne supporte pas l'idée d'être vaincu par quelque chose d'inanimé, eh bien, ça augmente le sentiment que nos machines sont vivantes, ça augmente l'illusion que nos machines sont vivantes. Nous avons d'autant plus besoin de penser que nos machines sont vivantes qu'elles sont en train de nous vaincre. Mais l'idée d'être vaincu par quelque chose d'inanimé, c'est pas acceptable. On peut pas accepter l'idée d'être vaincu par quelque chose qui n'a pas d'intention de nous vaincre. On peut pas. En fait, ce qui n'est pas acceptable, c'est notre responsabilité dans l'asservissement auquel nous nous livrons.
Alors justement, vous parlez de responsabilité, j'entends toute une notion d'enjeu individuel, de responsabilité, de prise de conscience individuelle. Pour autant, si c'est un enjeu de santé publique, j'imagine que c'est aussi au collectif de s'en saisir. Du coup, une fois qu'on a fait ce constat, ça serait à qui de s'en saisir, à l'État?
Ah, là, c'est un enjeu de santé publique. C'est un domaine dans lequel je n'entre pas dans le livre parce que je ne suis pas politique. Parce que je ne suis pas politique et que surtout, si je l'étais, je serais confronté à un dilemme terrifiant qui est de l'équation. Alors, pendant longtemps, ça a été équation égalité ou liberté. Qu'est-ce qu'on préfère? Là, c'est santé ou liberté. Qu'est-ce qu'on préfère? Qu'est-ce qu'il faut faire? Jusqu'où peut-on aller trop loin dans la restriction collective de la liberté, s'il s'agit d'un enjeu de santé publique. Si l'on considère que la consommation d'écran, par exemple, est en soi une activité délétère, faut-il, par exemple, légiférer là-dessus même? Ça n'aurait aucun sens. Un régime de liberté est un régime qui doit supporter le mauvais usage que nous faisons de nos libertés, c'est-à-dire également le fait de nous livrer sans vergogne à la soumission aux écrans. C'est-à-dire, on est obligé d'assumer le fait que nous en avons le droit et que ça reste de notre responsabilité. Donc, je ne ferai pas grand-chose, bizarrement.
Eh bien, justement, j'avais prévu une question là-dessus, mais bon, je vais pareil, je vais la mettre maintenant. Un peu plus philosophie politique. Il y a 2 semaines, vous étiez sur le plateau du Club Figaro, aux côtés d'Éric Sadin, qui lui évoquait
Oui.
le danger démocratique qu'il percevait, notamment sur les intelligences artificielles qui génèrent des images, dont, bah, du coup, nous ne connaissons plus l'origine de ces images. Il nous explique, je le cite, la démocratie, ça n'est pas uniquement des principes communs, ce sont aussi des référents communs, faute de quoi on ne se comprend pas. Et vous, lui prenant la suite, vous avez fait référence au discours d'Emma Gonzalez en 2018, dont l'image où elle déchirait une cible avait été détournée, comme si elle déchirait la Convention américaine. Et vous
La
dites,
Constitution.
la Constitution américaine, pardon, et vous dites, le faux n'avait aucune prétention à la vérité, se présentait tout nimbé de sa fausseté comme plus désirable que le vrai. Alors la question que ça m'a évoquée, c'est, est-ce que pour vous, il peut y avoir un danger démocratique dans ces intelligences artificielles, notamment sur l'image, je vous ai souvent entendu citer de Tocqueville, la démocratie meurt de la liberté qu'elle permet. Est-ce que ça peut être le même enjeu qui se passe ici?
Oui, c'est exemplaire de ça. Les démocraties dépérissent du mauvais usage des libertés qu'elles permettent. C'est-à-dire qu'on peut en démocratie passer notre vie à ne penser qu'à nous-mêmes, à être égoïste toute sa vie, ou bien par exemple à vivre dans une bulle cognitive dont on ne sort jamais, où la Terre est plate, ou bien où les Juifs gouvernent le monde, etc., etc. C'est-à-dire qu'on peut choisir de vivre dans le monde qu'on s'est forgé, on peut en démocratie faire ce choix, et la démocratie est grande de nous permettre d'être aussi petits. Le seul problème, c'est que si tout le monde fait un tel choix, la démocratie disparaît. Si tout le monde fait le choix de ne penser qu'à lui-même ou bien de s'enfermer dans sa bulle cognitive, le droit que nous avons de le faire va disparaître au profit d'une tyrannie. Et c'est ce phénomène-là que Tocqueville décrit. La démocratie est grande par la liberté qu'elle permet et elle est menacée par le mauvais usage des libertés qu'elle permet. Et c'est comme ça que les démocraties dépérissent, c'est comme ça que les démocraties s'abîment. Or, c'est exactement à ce genre de phénomène auquel nous assistons aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce que, mais aujourd'hui comme hier, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que l'ennemi, ce n'est pas l'image fausse. Des images fausses, il y en a toujours eu. Des photos truquées, il y en a toujours eu. L'ennemi, c'est le désir qu'on vous crève les yeux. L'ennemi, c'est le désir d'être dupe. L'ennemi, c'est le désir de ne pas voir. Ou c'est le désir de préférer ce qu'on croit à ce qui est. Le véritable ennemi, c'est ça. Et c'est un ennemi démocratique beaucoup plus ancien que Midjourney. Alors, ce qui est vrai, c'est que les outils contemporains dont on dispose dotent le citoyen de mauvaise foi, c'est-à-dire celui qui veut être dupe, de moyens considérables considérable. Mais les moyens considérables dont il est doté n'excusent pas ou ne diminuent en rien la responsabilité qui est celle du citoyen dans le choix qu'il fait de croire des conneries ou bien de voter en toute connaissance de cause pour un parti qui les propose. Donc, vous voyez, d'une certaine manière, les problèmes n'ont pas changé. C'est toute la différence entre, voilà, alors le propos d'Éric Sadin qui est très intéressant, hein, et de dire que avec les potentialités de fake ou de false news que l'on peut fabriquer, d'images fausses plus que d'images préfabriquées, d'images fausses que l'on peut proposer, nous n'avons plus de terrain commun. En fait, la différence entre ce qu'il dit et ce que je dis, c'est que pour Éric Sadin, nous n'avons plus de terrain commun à cause de ces images, si j'entends ce qu'il dit, hein. En ce qui me concerne, c'est parce que nous ne voulons plus de terrain commun que nous nous servons des images en question pour nous les opposer les uns aux autres. Voilà.
Du coup, dans cette recherche de la vérité, de ne pas vouloir être dupe, etc., j'imagine que la philosophie, que se prêter à l'exercice de la philosophie, ça pourrait être un des remèdes.
Ah, je sais pas si c'est un remède, mais c'est un bienfait, incontestablement. Par exemple, quand vous faites de la philosophie, imaginez par exemple, prenons un vieil exemple, mais qui fonctionne bien. À la fin du débat, du premier débat avec Emmanuel Macron, Marine Le Pen a dit, j'espère qu'on va pas découvrir demain que vous avez un compte offshore aux Bahamas. Il n'a même pas répondu, il a bien fait de ne pas répondre. Parce que s'il avait répondu, mais madame, comment, qu'est-ce que vous dites, je ne vous permets pas, etc., on aurait dit, tiens, il nie, c'est louche. Marine Le Pen n'avait pas posé une question. Pour sa défense, ensuite, elle a dit, je pose une question, j'ai bien le droit. Non, elle n'a pas posé une question. Elle a répandu un soupçon. Ça n'a rien à voir. Elle n'a pas posé une question, elle a diffusé une rumeur en s'appuyant sur un hoax qui avait été un truc, qui était un truc russe, qui avait été fabriqué juste avant et qu'elle est allée piocher avant d'entrer sur scène. Elle n'a pas posé une question, elle a distillé un soupçon à partir de quelque chose de faux. Comment répondre à Marine Le Pen? En lui apportant les preuves qu'il n'y a pas de compte offshore aux Bahamas? Ah ah! Se dira le suspicieux. Puisque vous apportez la preuve qu'il n'y en a pas, c'est donc qu'il y en a. Sinon, quel besoin auriez-vous de me prouver le contraire? Donc, le suspicieux ne sera pas convaincu par la preuve du contraire. En revanche, le suspicieux peut éventuellement, être ébranlé par la déconstruction de la méthode qui est la sienne. Si on lui dit, mais Macron n'a pas de compte offshore aux Bahamas, il vous dira, c'est normal, vous êtes macronien, vous êtes un bourgeois, vous êtes juif, vous êtes ce que vous voudrez. Bon. Si en revanche, on lui dit, l'information selon laquelle il a un compte offshore aux Bahamas est une information qui a été fabriquée de toutes pièces sur un site, elle est apparue comme par hasard une heure avant le début du débat et Marine Le Pen s'en est servie et elle n'a pas de durée de vie supplémentaire, alors là, on a une prise sur ce qu'il pense. Et c'est là que c'est intéressant. Autrement dit, le travail n'est pas de se faire les ambassadeurs de la vérité contre le mensonge. Parce que dire la vérité à celui qui se ment à lui-même, c'est s'exposer à s'entendre dire qu'on est un menteur. Alors que le travail, il n'est pas véridique, si vous voulez. Il est méthodologique. Il faut travailler sur la méthode. Et c'est comme ça qu'on retrouve un terrain commun. On retrouve un terrain commun en se mettant d'accord sur les méthodes d'investigation, parce que les méthodes d'investigation transcendent les opinions. Et donc, la construction, la refabrication en permanente d'un terrain commun, c'est-à-dire des conditions d'un dialogue, passe par l'examen des méthodes plus que par la détention de la vérité.
Alors, ça me fait penser, alors j'espère que mes souvenirs de philo ne me trahissent pas et que je ne vais pas insurger le prof de philo que j'ai en face. Ça me
Ouf, c'est pas vrai.
ferait, je crois, penser à un échange entre Trasimaque et Socrate, si je ne dis pas de bêtises, où Socrate le ramène
Oui.
à la dialectique
Ah
plus
oui, tout à
qu'à la
fait.
raison.
C'est le premier livre de la République. Vous avez bonne mémoire. Le premier livre de la République de Platon. En fait, les interlocuteurs se demandent ce que c'est que la justice. Bon, ils ont pris le problème à l'envers, etc. Socrate s'en aperçoit un peu plus tard. Mais c'est pas ça qui compte. C'est qu'à un moment dans la discussion, déboule Trasimac, qui est une sorte de vedette de la discussion, de champion du monde de la sophistique. Et Trasimac est très agressif envers Socrate. Et il lui dit, je ne veux pas parler avec toi. Je ne veux pas discuter avec toi. Et il au lieu de discuter avec Socrate, il l'insulte, il l'injurie, il lui dit, tu es un bébé, tu es morveux, tu es encore dans tes langes, etc., etc. Il lui parle très violemment. Et en fait, tout le travail du livre 1 de la République n'est pas d'obtenir une définition commune de la justice, ça ils y arriveront plus tard. Non, c'est d'obtenir que ce connard de Trasimaque accepte d'entrer sur le terrain commun de la discussion. Et la victoire de Socrate n'est pas une victoire idéologique, ça n'est pas la victoire de l'opinion de Socrate sur la justice, sur l'opinion de Trasimaque sur la justice. Plus tard, il y aura ce débat. Mais c'est la victoire du goût de débattre ou de la possibilité de la discussion sur le refus de la discussion. Et c'est pour ça que La République est un texte très important et que de façon générale, les dialogues de Platon sont très importants parce que l'affrontement de Socrate et des sophistes, c'est un affrontement qui est à la fois un affrontement idéologique, les sophistes étant les premiers démocrates et Platon détestant la démocratie, mais c'est une autre question. Mais c'est aussi un affrontement qui porte sur la possibilité même de la discussion. Parce que pour les sophistes, toute opinion pouvant être défendue, il n'y a plus de discussion possible. C'est tout le paradoxe. C'est que quand toute opinion peut être indifféremment défendue, la discussion n'est plus possible. Quand on a renoncé à mettre en commun un savoir, ou bien à cheminer ensemble vers davantage de vérité ou un peu moins d'illusion, quand on a renoncé à cela, il n'y a plus de discussion possible. Donc, c'est d'autant plus important. Il y a 37 dialogues de Platon, et vraiment, je ne connais pas de lecture plus utile.
C'est d'ailleurs, il me semble, une partie de votre travail, ou peut-être l'entièreté, je sais pas comment vous allez le définir, mais de votre travail, me semble-t-il aussi, par exemple, chez Franc-Tireur, finalement, de réouvrir à la discussion, au débat, plus qu'à imposer un point de vue, mais d'amener
C'est le
chacun à
but.
la réflexion.
C'est le but. C'est le but. Alors, il y a une différence avec Franc-Tireur, c'est un peu particulier parce que, en somme, si vous voulez, Franc-Tireur est un oxymore. Parce que nous défendons la discussion, nous défendons la dialectique, nous plaidons pour le débat, pour l'ouverture et le débat et la discussion. Mais en réalité, nous n'aimons rien tant que donner des coups de boule. Donc, le journal, si vous voulez, comment dire, les intentions du journal sont en conflit parfois avec les manières qui sont les siennes. On est des voltairiens, mais des voltairiens pas contents. On est des républicains, mais des républicains furax, des républicains qui en ont marre. Et donc, si vous voulez, il y a dans le journal une double appartenance. Certains diront c'est la faiblesse du journal. Moi, je crois que c'est sa force, parce que nous sommes faits de colère et de rationalité. Et que c'est ça aussi que les lecteurs plébiscitent. Mais en tout cas, le journal en lui-même est un oxymore pour cette raison.
Est-ce que, avant de revenir sur une dernière question sur l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a là un lien, me semble-t-il, c'est Montaigne, ça aussi, qui mettait en exergue l'importance de la forme des discours au-delà du fond des discours?
C'est très important. En fait, ce n'est pas la forme aux dépens du fond, c'est la manière aux dépens de la matière. C'est un texte de Montaigne. Oh, j'en donne la référence pour que les gens qui suivent ce podcast puissent s'y référer. D'abord, il faut savoir que les essais de Montaigne. Est-ce que j'ai ça? Pas là, c'est dommage. Les essais de Montaigne existent maintenant en français moderne, dans la traduction d'André Lanly. C'est édition Quarto, chez Gallimard. Et c'est une édition géniale parce que vraiment, on n'est pas gêné par le français renaissant. Et c'est le texte lui-même. Donc, c'est très bien fait. Et donc, il y a dans le chapitre 8 de la troisième partie des essais, un chapitre sur l'art de conférer, c'est-à-dire l'art de la conversation. Une distinction que fait Montaigne entre la manière et la matière, qui n'est pas une distinction entre le fond, entre la forme et le fond, c'est une distinction entre la structure d'un discours et la teneur d'un discours. Il dit, nous sommes sur la manière plus que sur la matière. Alors, pour lui, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que la façon dont les choses sont dites compte autant, sinon davantage, que ce que nous disons même. Ce qui permet, par exemple, à Montaigne de pointer. Alors, un lecteur de Montaigne pourrait, par exemple, appliquer ce système à une comparaison entre la France insoumise et le Rassemblement national. Le contenu s'oppose spectaculairement et pourtant les formes se ressemblent. C'est pas la forme, c'est la façon, c'est la manière. Et alors, quand on prend cette distinction de Montaigne et qu'on l'applique au débat contemporain, on s'aperçoit que ce qui compte, c'est la manière. C'est-à-dire, ce qui compte dans un débat, c'est d'avoir face à soi non pas quelqu'un du même avis, mais quelqu'un de bonne foi. Quelqu'un que ses opinions n'empêchent pas d'être de bonne foi. C'est la seule chose qui compte. C'est pas la matière de ce qu'il pense. C'est la manière dont il le pense, c'est la capacité dont il fait preuve lui-même d'accueillir un autre discours que le sien. Et donc, Montaigne, en élaborant cette nuance entre manière et matière, fonde, fournit en tout cas, je crois, l'une des meilleures définitions de ce qu'on appelle un lieu commun, mais au sens noble, au sens d'espace commun et non pas de banalité.
Pour terminer, je vous en ramène à l'intelligence artificielle, puisque je sais, après, il faut que je vous libère, même si ça évoquerait plein de questions. Dans le livre, vous dites, je vous cite, que tous les métiers vont sûrement changer sous l'effet de l'intelligence artificielle, sauf s'il existe encore celui de professeur. Je me fais un peu
Prof de
avocat,
philo.
prof de philo. Alors, ça, c'est votre paroisse pour la paroisse de beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Est-ce que les psychologues, les psychanalystes, par exemple, ils pourraient pas être un peu protégés de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est pas aussi leur métier de faire un pas de côté?
Mais si, bien sûr, et pour les mêmes raisons. C'est pas le prof de philo qui est protégé par l'intelligence artificielle. Non, ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est de vérifier qu'effectivement, avec la philosophie, elle rencontre une limite absolue. Mais c'est pas le prof de philo pour le prof de philo. De quoi la situation privilégiée du prof de philo est-elle le nom? Qu'est-ce qui fait qu'un prof de philo est préservé de l'IA, d'une certaine manière, des méfaits comme des bénéfices d'ailleurs de l'IA? Qu'est-ce qui fait que l'exercice de la philosophie est totalement hermétique à l'intelligence artificielle? Eh bien, c'est la détention de ce que Jankélévitch appelle le je ne sais quoi. C'est précisément ce qui fait qu'on retrouve dans le charme, qu'on retrouve dans l'esprit, qu'on retrouve dans l'humour, qu'on retrouve dans tout ce que la vie peut avoir de singulier. Quoi de plus singulier que la confidence par association d'idées qu'on peut faire à son psychologue ou à son psychanalyste? Ou que l'interprétation que lui-même, en fonction de ce que lui-même a vécu, est capable d'en faire? Quoi de plus original qu'un tel chemin, qu'un tel sentier? Quoi de moins mathématisable, quoi de moins conceptualisable qu'une telle expérience? Et en fait, de la même façon, on pourrait l'appliquer à l'histoire de l'art, on pourrait l'appliquer, mais en réalité, on peut l'appliquer à toutes les disciplines, parce qu'il y a dans toute discipline quelque chose qui excède la science. Par exemple, dans le colloque singulier d'un médecin et d'un malade, dans les décisions qui sont prises par le médecin a beau être renseigné et aujourd'hui mille fois mieux par l'intelligence artificielle, la décision qu'il prend continue d'être la sienne. Ou bien la décision qu'il prend de se soumettre à l'intelligence artificielle engage la responsabilité qui est la sienne. Et on ne sort pas si aisément du champ de notre responsabilité. Donc il y a, si vous voulez, je ne parle pas simplement de la philo. À la faveur de la philo, j'essaie de parler de tout ce qui en nous résiste à cela, non pas comme une citadelle, mais ce qui en nous se voit rétif à sa conceptualisation, à sa mise en diagramme, à sa mise en équation. Il y a en nous de l'inquantifiable. Et alors, on le trouve en majesté dans l'exercice de la philosophie, mais on le trouve partout, bien sûr. C'est tout simplement tout ce qui, dans la vie, n'a pas de prix et que le génie d'Aladin ne peut pas obtenir.
Est-ce que le je ne sais quoi de Jankélévitch, ça peut être la même chose ou être en lien avec l'élan vital de Bergson?
Oui, c'est ce... Comment dire? Jankélévitch est le meilleur élève d'Henri Bergson. Bergson est... se trouve tout entier dans l'idée que, pour le dire très 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 rapidement, mais c'est pas grave, hein, que quand on aime, on ne compte pas. Il y a de l'indénombrable dans l'existence. La véritable substance de la vie, c'est-à-dire la durée, ne peut pas faire l'objet d'une quantification ou d'une spatialisation. Et en réalité, ce qui fait la vie relève, et ça il le découvrira 43 ans plus tard, d'un élan vital. Non, pas 43 ans, enfin, peu importe, d'un élan vital. Et j'ai oublié votre question.
Oh, ma question, c'était est-ce qu'il y avait un lien ou est-ce que vous avez parlé de la même chose, de ce je ne sais
Oui,
quoi?
bien sûr, et le je ne sais quoi. Le je ne sais quoi, c'est quoi? Bien sûr, c'est la même chose, puisque c'est de l'indénombrable, c'est de l'inquantifiable, c'est le régime de l'inquantifiable, c'est le spiritualisme. C'est le spiritualisme français. Le spiritualisme, c'est pas du spiritisme, et ça n'est pas non plus une façon de dire qu'il y aurait une sorte de monsieur esprit qui trônerait, si vous voulez, comme un capitaine en son navire, à l'intérieur de notre corps. C'est pas ça. Le spiritualisme, c'est le constat que ce qui fait le sel de la vie ne peut pas faire l'objet d'une équation. Tout simplement. Tout simplement. Et que le meilleur exemple qu'on puisse en donner, c'est l'amour.
C'est un peu Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas.
C'est l'acte de naissance de ce dont je vous parle. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas.
Très bien. Eh bien, Raphaël, je vais vous laisser filer. Je vous remercie beaucoup du temps que
Merci.
vous nous avez
Avec plaisir.
consacré. L'esprit artificiel aux éditions de l'Observatoire. Je remets tous les liens dans la description. Et un grand merci à vous pour votre temps.
Merci à vous. À bientôt.
Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao. Thank you.